Est-ce que la sociologie est une science et est-ce que la sociologie est une science comme les autres? Et à cette question, nous voudrions répondre d'une façon assez simple. La sociologie est une science comme les autres, à la différence que le fait qu'on la pense comme différente et que parfois elle se pense comme différente lui rend plus difficile la tâche qui s'impose à elle d'être une science comme les autres.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Socioscopie, une nouvelle émission de Transistor présentée par Maëlys et moi-même pour vous parler de sociologie. Bonjour Maëlys.
Bonjour Robin.
C'est donc une pastille sociologique destinée à éclairer des questions de société à l'apparence absurde ou évidente, c'est selon, que les sociologues ont essayé d'expliquer de façon scientifique dans des travaux connus ou non du grand public, mais toujours passionnants.
L'ambition de Socioscopie, c'est de vous expliquer tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la société sans jamais avoir voulu ou pensé le demander. Et le gros challenge, en fait, c'est qu'à chaque fois, on fera ça en moins de 10 minutes. Vous verrez très vite que même si tout n'est pas complètement social, il y a du social dans tout, même là où on s'y attend le moins.
Et aujourd'hui, pour ce premier numéro en direct de Socioscopie, pour ce baptême du feu, nous avons choisi une question déroutante, mais néanmoins classiquissime en sociologie. Vous verrez pourquoi se suicide-t-on ? Pour plein de motifs, me direz-vous, et si on savait exactement pourquoi certains individus en viennent à se tuer eux-mêmes contre toute attente, peut-être aurait-on une recette miracle pour prévenir ce type d'action. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un grand classique de la littérature sociologique, le suicide d'Émile Durkheim, paru en 1897. Dans cet ouvrage, le père fondateur de la sociologie en France et le premier grand théoricien de la discipline entreprend de révéler l'existence de déterminants sociaux au suicide.
Mais remontons un peu le temps. Le suicide est une question débattue depuis très longtemps en Occident et fortement imprégnée d'une connotation morale dans la culture judéo-chrétienne, puisqu'il contrevient au commandement divin « tu ne tueras point ». Ça a donc été pendant des siècles considéré au mieux comme un péché grave, au pire comme un homicide équivalent à un meurtre. C'est beaucoup moins le cas dans d'autres sociétés où le suicide peut être toléré, voire valorisé. Donc vous connaissez tous, je pense, le harakiri japonais. On ne vous fait pas un dessin, c'est l'heure du dîner. Bref, pendant des siècles, le suicide a avant tout été abordé sous un angle théologique, philosophique et moral, et de manière essentiellement normative en Occident. Dieu l'a dit, le suicide c'est mal. Au XVIIIe siècle et puis au XIXe siècle, certaines disciplines commencent à s'y intéresser pour expliquer et trouver des causes plus ou moins scientifiques à la question « pourquoi se suicide-t-on ?». À l'époque de Durkheim, fin XIXe siècle, le suicide est classiquement considéré comme relevant au choix de la folie ou de l'hérédité, donc facteur biologique, parce que oui, la médecine et la biologie ont le vent en poupe à l'époque et considèrent que vous vous suicidez certainement parce que vos parents sont suicidaires ou que vous êtes malade. Il peut également être la résultante du climat, en fait. C'est l'explication développée notamment par Montesquieu, selon laquelle le climat influerait sur nos mœurs et nos comportements. Donc, il pleut, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, je déprime, je me tue, quoi, pour caricaturer. Ou bien encore, il peut relever de limitations mécaniques. C'est l'explication avancée dans la droite ligne des vagues de suicides qui ont pu se produire dans l'histoire. On se rappelle tous ici des jeunes gens qui se sont suicidés après avoir lu Les souffrances du jeune Werther de Goethe pour imiter le héros. D'ailleurs, ce phénomène s'appelle l'effet Werther si un jour on vous pose la question.
Enfin bref, la sociologie n'arrive pas en terrain vierge en s'attaquant au suicide, et Durkheim, il le sait. Il décide d'analyser sociologiquement un objet a priori asociologique, admis comme étant purement pathologique, psychologique et individuel. Et même un peu tabou à l'époque où les suicides sont encore sous-déclarés, car les suicidés sont considérés comme une honte dans leur famille et n'ont en théorie pas le droit à une sépulture chrétienne. Donc Durkheim balance, et à dessein, un énorme pavé dans la mare avec cette étude, en montrant que derrière le suicide et ses explications avancées, il y a du social.
Et pour Durkheim, c'est moins une révolution qu'un appel à la rigueur. Les travaux du XIXe siècle sur le suicide seraient marqués par une même erreur. Il dresse un constat au niveau social, il y a de plus en plus de suicidés, et il cherche une explication au niveau individuel. Durkheim, lui, est très attentif à l'homogénéité des causes. À problème social, explication sociale. Il ne s'agit pas, en fait, pour Durkheim, d'étudier le suicide en soi, mais plus précisément le taux de suicide, c'est-à-dire le pourcentage de suicidés dans une population. Ce n'est donc pas un marqueur des individus, mais un marqueur d'une société, et plus précisément, c'est un indicateur statistique.
Et l'usage des statistiques, justement, est fondamental dans le suicide. Elles sont un gage de scientificité. parce que les statistiques permettent en fait de réaliser le programme de Durkheim exposé dans les règles de la méthode sociologique. Il s'agit de traiter des faits sociaux comme des choses. On regardera donc le taux de suicide dans chaque groupe comme un phénomène, comme un physicien, sans faire de présupposés sur ce qui justifie un suicide particulier. Durkheim va ainsi partir à la recherche de ce qu'on appelle une corrélation. Par exemple, si les urbains ont un taux de suicide plus élevé que la moyenne, alors on peut dire que se suicider et être urbain sont corrélés, et donc on a trouvé un déterminant social du suicide. Pour construire ces données, Durkheim utilise des sources judiciaires et administratives. À l'époque, les institutions recueillaient la cause de la mort lors d'un décès, lorsque le décès était déclaré en fait, et puis également des détails sur les caractéristiques sociales du mort. Durkheim sort de toutes ces données un grand tableau statistique qui lui permet de montrer que certaines situations sociales sont associées avec beaucoup de suicides et d'autres très peu. Il montre par exemple que les hommes bien insérés dans leur famille, ceux qui ont des enfants, ceux qui sont mariés, se suicident beaucoup moins que les célibataires par exemple. Pour les femmes, c'est l'inverse par contre. Et il se rend compte aussi que le taux de suicide varie énormément selon les religions. On suicide beaucoup chez les protestants, un peu moins chez les catholiques et très peu chez les personnes de confession juive.
Suite à cette étude statistique, Durkheim va tenter d'établir une typologie du suicide en fonction de ses causes sociales potentielles. Donc tous les suicides ne se valent pas socialement et ne sont pas déterminés par les mêmes facteurs. Donc il va mettre en avant deux grands motifs de suicide, enfin plusieurs grands motifs de suicide, qui sont soit l'excès ou le défaut de deux dimensions sociales qu'il appelle l'intégration sociale. Donc c'est le fait d'être entouré, d'être intégré à un groupe, d'appartenir à un groupe humain. Et la régulation sociale, qui est le fait d'être cadré par des normes sociales qui ont été intériorisées par les individus. Donc en fait, il va le distinguer quatre types différents de suicides selon que ce dernier résulte d'un défaut ou d'un excès, soit d'intégration sociale, soit de régulation sociale. On a quatre cas possibles donc.
Le premier cas de figure, c'est le suicide fataliste, qui résulte d'un excès de régulation sociale. C'est quand les normes sociales écrasent l'individu et qu'il n'a plus d'échappatoire. Par exemple, c'est le cas de Madame Bovary, victime malgré elle de la vie sociale un peu étriquée de province, alors qu'elle ne rêve que de grandes aventures qu'elle a lues dans les livres.
Le deuxième type de suicide mis en évidence par Durkheim, c'est le suicide altruiste, qui résulte selon lui d'un excès, mais cette fois un excès d'intégration sociale. Donc l'individu se tue par devoir, c'est le militaire qui se donne la mort suite à une bataille perdue, les parents qui se sacrifient pour leurs enfants, c'est le martyr chrétien qui va au-devant de la mort volontairement. Oui, c'est le martyr chrétien qui va au-devant de la mort volontairement parce que c'est la définition opératoire de la mort volontaire du suicide selon Durkheim.
Les troisième et quatrième types de suicides sont des suicides par manque, soit égoïste, une trop faible intégration sociale, soit anomique, un affaiblissement de l'emprise des normes sur l'individu.
Voilà, ce premier numéro de Socioscopie touche à sa fin. Nous espérons que ce numéro vous a plu. Peut-être même avez-vous appris des choses sur le suicide comme phénomène social. Mais on vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de nouvelles questions sociologiques. Bonne soirée sur Transistor.
Je dis souvent, la sociologie est un sport de combat. C'est un sport de combat, ça sert sur...
La sociologie, c'est un sport de combat.
Ouais, c'est un sport de combat, comme un sport de combat, on s'en sert pour se défendre. Essentiellement, et on n'a pas le droit de s'en servir pour faire des mauvais coups.
C'était Socioscopie sur Transistor. C'est le temps de vous remonter le moral en écoutant le Journal des Bonnes Nouvelles.